ni à sa fascination pour la nature qu'il magnifie et défend par la littérature. Ici, il est donc parti en quête de la panthère des neiges, animal mythique dont seuls 5000 spécimens sont encore vivants sur la planète. Une démarche autant écologique, géographique que poétique, devenue un livre aujourd'hui avec les photographies de Vincent Munier et un album qui pour les fêtes de fin d'année sera sans aucun doute un cadeau idéal à mettre sous le sapin pour toute la famille.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 18h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.
Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue à l'écoute de l'oreille curieuse sur Radio G, c'est la quotidienne des actualités culturelles et locales. Le lundi, un lundi sur deux, on retrouve la chronique d'Anémone, portrait de femme. En deuxième partie d'émission, je ne sais pas encore de qui nous allons parler, c'est une surprise, soyez là. Et avant, on va parler de photographie et de cuisine. Oui, tout ça avec la cuisine des musiciens. Un projet photographique que vous allez pouvoir découvrir édité et aussi en exposition très bientôt à la Tour Saint-Aubin. Voilà, on va en parler avec son auteur, son photographe, Jean-Michel Delage. Allô Jean-Michel ?
Oui, bonsoir.
Salut, merci d'être avec nous, je suis super ravie. On t'entend, et Anémone, toi qui es en studio, si tu veux entendre Jean-Michel, il faut que tu mettes un casque. Voilà, et à vous, normalement, derrière vos postes, ça marche très bien. Alors, la cuisine des musiciens, c'est un projet que tu portes depuis plusieurs années. Il va se concrétiser avec la sortie d'un livre, très bientôt, et une expo...
Enfin.
Oui, enfin, on va y revenir. Et une expo du 15 au 24 novembre à la Tour Saint-Aubin. C'est deux temps forts dans le projet. Et le principe, c'est que tu es allé rencontrer des musiciens, des musiciennes du Maine-et-Loire, mais pas n'importe où dans leur cuisine. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment ce projet est né et pourquoi aller dans une cuisine ?
Alors déjà, comment le projet est né ? Alors, j'ai eu l'occasion de vivre avec des musiciens à l'époque où il y avait encore la Fontaine du Mont à Muret-Régnier. Donc j'ai rencontré plein de musiciens et moi-même j'adore la musique. Et j'ai vu qu'il y avait cette scène très riche dans notre département. Alors peut-être que c'est partout pareil, mais en tout cas, vivant ici, je l'ai vu comme quelque chose d'assez important et de varié. Et j'ai trouvé que les photographier dans la cuisine, déjà c'était un alibi de leur proposer ça,
un prétexte,
un alibi pour aller chez eux.
Oui.
Et puis la cuisine, on a tous une cuisine, et il y a aussi l'idée c'est que je trouve qu'il y a plein de choses communes entre la musique et la cuisine. Alors non pas simplement dans les instruments, mais on pourrait parler du piano, de la batterie, de la flûte, de la baguette, etc. Mmh. J'ai trouvé une trentaine de noms communs, comme ça, entre les deux pratiques. Et puis la cuisine, bah, c'était aussi pour faire une unité dans ces portraits, en fait.
Mmh. Et concrètement, avec eux, sur place, dans la cuisine, comment ça se passait, une séance de prise de vue ?
Alors une séance de prise de vue, bah déjà ils étaient au courant que j'allais les photographier dans leur cuisine, grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu rencontrer des gens que je ne connaissais pas, et puis le bouche à oreille, etc. Donc je me suis retrouvé dans cette cuisine pour faire un portrait. Donc une fois que j'étais là, j'étais le maître de cérémonie, le chef d'orchestre, le chef de la cuisine. Et j'opérais, je faisais mon travail de portrait, en fait. Après, ça reste de la photo, hein. Donc un portrait, bah, c'est éclairer le mieux possible et puis mettre en valeur, justement, cette cuisine. Tout le monde n'a pas la même cuisine, tout le monde n'a pas la grande cuisine. Certains, sont plus jeunes dans leurs installations, donc la cuisine n'est pas toujours très intéressante. Mais en tout cas, il se dégage l'atmosphère et l'unité, toujours, je répète ça, parce que c'est vrai que c'est ce qui fait la force de ce projet, c'est l'unité du lieu, quoi.
Et toi, dans ton travail de photographe, donc là, il y a ce projet autour des musiciens, de la cuisine, mais tu as pu avoir plein d'autres projets très différents. Est-ce que la mise en scène est quelque chose d'important? Est-ce que tu diriges beaucoup les personnes que tu vas photographier?
Je pense que... Il n'y a pas un grand travail de direction, mais quand même, ce sont des gens qui... On n'est pas tous à l'aise devant un appareil photo, même si on est musicien, hein, sa place, c'est plutôt derrière sa batterie ou avec sa guitare autour des épaules. Donc il y a ce moment où on se laisse faire, où on estime que le photographe a la meilleure idée. Alors des fois, j'avoue que je savais pas toujours quoi faire. Et puis il y a cette notion de... Alors il y a quelque chose que je n'aime pas en photo, que je n'apprécie pas forcément, c'est le regard caméra et surtout le sourire. Alors le regard caméra, je l'ai assez souvent sur ces photos-là.
Tu veux dire quand
sourire...
on regarde directement dans l'objectif?
Ouais, alors ça, oui, voilà, ça encore, ça peut aller. On peut avoir un regard vers la caméra, vers l'appareil photo. Mais le fait de sourire, moi j'avais envie de gens neutres, des visages neutres. Alors neutre ne veut pas dire faire la tronche non plus.
Ce n'est pas des photos d'identité non plus.
Ce ne sont pas des photos d'identité, les photos sont cadrées plus ou moins larges. On voit le décorum, on voit la cuisine, et puis on a ces gens sans sourire, qui me regardent ou qui ne me regardent pas. Mais c'est aussi ça qui fait l'unité en fait, cette neutralité du visage. Pour moi, c'était important de ne pas avoir des gens sourire. Et c'est vrai que ça a posé question. Ça a posé question à moi au départ. Et puis après, moi, je m'y suis tout à fait habitué. Mais d'autres, en voyant ces photos, ont trouvé quelque chose de triste, ou voire pire. J'ai entendu des trucs pires que ça. J'ai cherché pourquoi. J'ai cherché... qu'est-ce qu'un sourire sur une photo? Pourquoi doit-on sourire? Bon, voilà, j'ai pas entré dans les détails, mais j'ai vraiment tapé ça sur Google un jour. Ça m'a donné quelques explications. Et puis, je suis aussi allé voir des pochettes de disques, où on trouve les artistes, que ce soit de la chanson, du rock, de la pop, où on voit ces portraits un peu plus serrés. Et on pourra s'apercevoir qu'il y a très peu de sourires. Il y a ce visage un peu fermé. Que ce soit des gens heureux ou tristes dans la vie, dans leurs chansons ou dans leur musique, il y a ce regard, cette neutralité, moi ce que j'appelle toujours la neutralité. Et à part peut-être la bande à Basile ou la compagnie créole, on ne trouve pas forcément des gens qui s'éclatent comme des bêtes sur leurs photos de disques, quoi. Hein.
Et de rentrer chez les artistes que tu as pris en photo, dans leur cuisine, donc vraiment dans leur intimité. Il y a des artistes que tu connaissais auparavant, d'autres que tu as vraiment rencontrés sur le projet. C'est pas si simple
d'être... La plupart, je les ai rencontrés sur le projet. Alors bon, moi je suis parti de ceux que je connaissais. Puis après, avec les réseaux, j'avais archivé des choses trouvées dans les journaux locaux, etc. Tiens, il y a un nouveau groupe, tiens, il y a ce groupe, tiens, il y a ci, tiens, il y a ça. Des gens que je n'avais pas forcément vus, ni même écoutés, ni en concert, ni en disque. Mais avant d'aller les voir, j'écoutais quand même un peu par curiosité, et puis surtout par respect, pour savoir un peu à qui j'avais affaire, quoi. Et le bouche à oreille, parce qu'à chaque fois j'allais en voir un, on me disait, tiens, bah, tu connais pas machin ou truc. Ah bah non, bah, je notais, bah, tiens, voilà son téléphone, ou appelle-le de ma part. Enfin voilà, ça a été une grande chaîne comme ça, jusqu'à arriver à presque 100 personnes, quoi.
Avec un paysage très varié, avec plein de styles musicaux différents.
Je tenais à avoir déjà toute génération, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont connus depuis très longtemps, ou pas connus, en tout cas, si je peux reprendre ça plutôt, j'avais un critère quand même simple, c'était d'avoir affaire à des gens qui sont encore dans le paysage musical du 49. C'est-à-dire que mon travail, ce n'était pas un travail d'archives pour
ou de patrimoine.
Tiens, en 1970, il y avait aussi lui ou lui. Cela n'existe plus. Ils ne sont plus actifs, donc ça ne m'intéressait plus. Il se trouve que, pour étayer mon exemple, les Tugs, par exemple, n'existaient plus. Pour moi, c'était même pas triste de ne pas les avoir. Mais il se trouve que deux parmi... ce groupe, deux membres, ex-membres, ont remonté un projet. Donc du coup, ça m'a permis d'aller vers eux. Ils avaient leur place tout à fait comme d'autres, plus jeunes et plus actifs ces derniers temps. Donc je me suis retrouvé avec cette centaine de portraits des chanteurs, des rockers, de la musique électro, du rap...
Toute la diversité de la scène locale. Et l'autre question que je me pose, c'est, enfin, même un constat que je fais, c'est qu'en faisant ces photographies, t'as pas fait que prendre des photos et partir. Bien sûr, il y a eu un moment de discussion, de rencontre, et t'as aussi enregistré des conversations, et t'en as fait des petits documentaires sonores et musicaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette forme-là, comment elle est arrivée?
Oui. Pardon. Alors, à l'issue de chaque prise de vue, J'avais un interview à faire, et cette interview, bah, au départ, il était assez large, comme un interview hein, d'un artiste ou d'une personne, où je leur demandais un peu leur background musical, leur histoire, comment, voilà. Et puis, il y avait toute une partie où on jouait sur cette notion de recette de cuisine, mais aussi de la recette d'une chanson, d'une musique, enfin voilà, je jouais un peu sur ces deux tableaux, ce qui me faisait des interviews plus ou moins denses, qui étaient destinées d'abord au livre, donc chaque portrait a aussi son texte, hein, enfin aujourd'hui dans l'ouvrage ça se passe comme ça, et puis il se trouve que ces interviews-là, je les ai faites de façon... comment dire, propre dans le sens où utile pour les travailler et les monter comme un objet sonore possible, quoi. Donc au début, bah voilà, c'était plutôt une idée, mais vu le travail, c'était pas vraiment certain que j'y arrive, quoi. Et en montant un ou deux, j'ai trouvé ça plutôt chouette d'avoir à la fois la voix de ces gens-là, leur musique, quelques extraits. J'ai réussi à en faire un certain nombre qui durent entre 3 et 4 minutes, quoi, donc des choses assez faciles à écouter pour un auditeur, ouais, sans que ça soit trop redondant. Et puis l'idée m'est venue d'accompagner mes photos et le livre et l'expo, donc, de ces sons. C'est-à-dire que dans le livre, on trouvera un QR code qu'on pourra scanner et on se retrouvera sur une plateforme de son, une plateforme plutôt connue, où on trouvera les sons. Alors, les sons, ils ne seront pas tous là d'un coup. Il y en a peut-être une quinzaine aujourd'hui. Ouais. Et petit à petit, je les ajouterai.
Et on écoutera Alex Grenier tout à l'heure. Enfin, c'est vraiment des formats qui s'écoutent très bien et qui permettent aussi d'entendre la voix de la personne, de découvrir son univers musical.
Moi, je trouve qu'il y a une proximité qui se crée avec ce son. Alors bon, le but suprême aurait été de mettre un QR code pour chaque photo, mais bon, voilà, là, c'est encore d'autres problèmes techniques. Là, on aura dans ce livre la plateforme et puis on ira écouter ce qu'on a envie. Pendant l'expo, par contre, il y aura une boucle sonore d'une heure, plus ou moins, qui
sera là selon le moment où on vient voir l'expo.
Voilà, ce sera le hasard. Alors, si on veut rester, on pourra en écouter deux.
Revenir.
Mais bon, il n'y aura pas le choix de dire, tiens, j'ai envie d'écouter un tel ou une telle. Ce sera quelque chose de plus en boucle, hein, voilà quoi.
Et Jean-Michel, tu nous parlais de la sortie du livre, donc de La cuisine des musiciens. C'est un livre, ça n'a pas été si simple de le faire exister, là c'est vraiment une concrétisation. Est-ce que tu peux nous décrire l'objet qui va être ?
Alors, moi l'objet, pour l'instant, il est encore virtuel, puisque je ne l'ai pas entre les mains. Le livre, il va arriver là.
En cours d'impression.
Il sera arrivé pour l'expo, en tout cas. Ça va être, à mon avis, et j'espère, un beau livre, plutôt un grand format. Couverture toilée avec une image sur la couverture. Et puis, il y aura une soixantaine de photos. Ça aussi, c'est pareil, c'est un choix et... Quand on fait un livre ou quand on fait un objet livre, malheureusement, on est obligé de faire un certain...
On peut pas tout mettre.
On peut pas tout mettre, ouais. Donc là, il y avait une centaine de photos. Je n'ai pu en mettre que 63 exactement de mémoire avec ces textes. Pas facile de dire, tiens, lui, je le mets, elle, je la mets pas, ou au contraire.
Ouais.
Enfin, bon, c'est un choix qui se fait pas tout seul.
Et il y a donc les images qui sont mises en avant, et là tu parlais du texte, où on va retrouver aussi des extraits de ces conversations, de vraiment du dialogue avec les
artistes. Pour chaque texte, pour chaque photo, il y aura un petit texte qui... Voilà, et là les textes sont vraiment sur la recette, quoi. La recette dans les deux sens, musique et... On évite de parler de leur background, de leur enfance musicale, etc. Bon, voilà, ça se répétait un peu trop à mon goût, donc on a dû éliminer beaucoup de choses qu'on retrouve un peu dans les interviews. Et puis voilà, il y aura ces photos, des petites, des grandes, des moyennes. Voilà, après c'est un rythme. Hein. Moi j'ai travaillé avec un maquettiste en qui j'ai toute confiance, c'est-à-dire que je lui ai donné mes photos. Je lui ai dit, voilà, voilà mes photos. S'il y en a trop, tu me le dis. S'il n'y en a pas assez, tu me le dis. Je te laisse faire la mise en page. Je pense que moi, j'aurais fait quelques erreurs. J'aurais peut-être mis en valeur des gens que j'aime plus que d'autres. Alors moi, je pense que j'aimais plus que d'autres. Alors moi, j'ai donné la maquette. Me plaisaient plus ou moins toutes. Mais j'avais envie que quelqu'un d'autre mette son nez là-dedans et ses yeux et son expérience de maquettiste, parce que un bouquin c'est encore autre chose quoi
rapport à la photo.
Un choix de photo, il faut trouver un rythme, il faut trouver quelque chose, même si là quand même on est dans une j'allais dire une collection, c'est-à-dire que on n'est pas dans un travail photographique où je sais pas si j'allais photographier j'en sais rien moi la Loire ou Angers ou un sujet social, il y a une histoire à raconter. Là, on a 63 photos de musiciens, de musiciennes, des couleurs, des gens qui regardent à droite, à gauche ou tout droit, ou face à la caméra et à l'appareil photo. Et le rythme, il est lié à tout ça, quoi. Puis les textes, certains ont beaucoup de choses à dire, plutôt intéressantes, d'autres moins. Donc, il y avait aussi la taille du texte qui a joué aussi avec
la conception du livre. C'est intéressant de travailler à plusieurs.
Ouais.
Et ce livre, donc, qui est en cours d'impression, d'arrivage bientôt.
Il va arriver la semaine prochaine, j'espère.
Ouais. Et on pourra le trouver dans les librairies, notamment. Et on peut aussi le commander.
Est-ce que c'est quand même une auto-édition ?
Ouais.
Donc ça n'a pas été simple à faire, une auto-édition d'un bouquin comme ça. C'est quand même lourd
C'est beaucoup de travail.
À un niveau, financièrement déjà. Le livre, il va être diffusé, bien sûr, dans les librairies déjà angevines, mais j'espère un peu plus large, dans les librairies du 49. C'est quand même un projet qui concerne vraiment notre département. Hein. Je dis pas qu'un Nantais ou un Marseillais ne serait pas intéressé, mais... ça reste quand même
c'est pas tout à fait le même ancrage. Oui.
D'où la difficulté à trouver un éditeur autre que local. Moi, j'avais pas envie de travailler avec un éditeur local cette fois-ci. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais être notre association. J'ai une association avec d'autres. Sera l'éditeur. Et puis, on va se débrouiller pour tout, quoi. Trouver l'argent pour payer tout le monde.
Et on peut aussi, nous, en tant que lecteurs et lectrices, dès maintenant, le commander.
Oui, le commander, oui.
Il faut écrire un mail ou passer par la page Facebook du projet.
Il y a un mail, il y a une page Facebook qui s'appelle toujours la cuisine des musiciens du 49, si je ne m'abuse, si je m'en souviens bien. C'est un projet qui a fait un sacré buzz, en fait, pendant longtemps. Qui malheureusement était bon, voilà, c'est pas parce qu'on a 800 personnes qui nous aiment qu'on trouve forcément les fonds. Mais à partir de maintenant, le livre existe, l'expo existe, et oui, on reçoit régulièrement encore des commandes là, de ce livre. Il n'y a pas eu encore un grand buzz médiatique, quoi.
Mais après cette émission, c'est ce qui va se passer absolument. On a des auditeurs et des auditrices très engagés.
On va être en rupture de stock dès la diffusion de cette édition. Ouais.
Jean-Michel, je redonne donc les infos sur le livre. Donc on pourra retrouver bientôt sur les étals, les librairies, en précommande aussi. Et l'exposition aussi, donc, qui aura lieu du 15 novembre au 24 novembre. Le vernissage,
oui,
c'est à partir de
18h30. Vous êtes tous bienvenus au vernissage le 15 novembre.
Et l'entrée est libre et c'est à la Tour Saint-Aubin.
L'entrée est libre. Le soir, il y aura un concert.
Génial.
Un concert. Il y aura, je ne vais pas dire de l'animation musicale, ça ne ferait pas plaisir à ceux qui vont jouer.
Mais
en tout cas, il y aura de la musique, il y aura du jazz, il y aura Blaise de Sol et Cam qui vont venir jouer. Un peu pour nous ce soir-là.
Et tu m'as envoyé aussi certains des montages, des réalisations sonores que tu as faites. On va écouter Alex Grenier. Si tu veux nous présenter un peu ce son en quelques mots à peine.
Alors Alex, ça fait partie des gens que je ne connaissais pas. J'avais découvert leur musique. Moi, je suis assez fan de jazz, donc de guitare de jazz. J'ai découvert, je suis allé chez lui. J'ai vu ce personnage... plutôt souriant, lui d'ailleurs, la banane tout le temps sur scène ou chez lui dans sa cuisine. Et voilà, il était un peu frustré de ne pas devoir sourire pendant cette image-là, cette photographie-là. Sa guitare était dans la cuisine. J'ai fait la photo avec la guitare. Je dis ça, je précise, parce que il y a peu de photos avec l'instrument. Je n'avais pas envie de jouer, de dire « Tiens, t'es guitariste, amène ta guitare. Tiens, t'es pianiste, sors ton piano. » Non, non, la cuisine, c'est la cuisine. Lui, en l'occurrence, la cuisine, il y joue, il y répète, il s'entraîne
et il
compose. Donc c'était parfait. C'était une belle rencontre avec ce garçon que je suis allé voir après en concert. J'ai découvert un peu plus après, ouais.
Bon,
que sa musique.
On l'écoute. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir été nous pour nous présenter cette nouvelle étape de la cuisine des musiciens. À bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Avec plaisir.
Tous de la radio.
Merci Jean-Michel.
À bientôt.
Alors, je suis guitariste de jazz. Et je joue de la guitare depuis que je suis tout petit. Alors ma discothèque, forcément, c'est les guitaristes de jazz, comme Joe Pass, comme Wes Montgomery, comme Kenny Burrell, et puis tous les grands guitaristes des années 50, 60. Et puis ça m'empêche pas aussi d'écouter plein de choses actuelles, du rap, de l'électro... De belles sorties, enfin aussi le jazz contemporain, on va dire. Et ben pour que ce soit goûteux, moi je parle souvent de couleurs, mais la cuisine ça se rejoint, parce que pour une belle recette il faut de belles couleurs, donc je dirais peut-être des beaux accords. Moi j'y suis beaucoup très sensible, Donc c'est ça, avant tout de beaux accords et puis après la mélodie qui se met par-dessus. Et puis le rythme aussi qui est très important en jazz parce que sans rythme, il n'y a pas de musique. De la scène angevine, je dirais qu'elle est très variée, donc ça c'est plutôt bon signe. Puis Angers, ça a toujours été un carrefour un peu pour beaucoup de musiciens. Enfin, il y a une scène vraiment qui vit beaucoup ici. Puis il y a quand même des lieux qui proposent beaucoup de concerts différents, même des. Je vois Joker's Pub où on s'est produit récemment. Il y a beaucoup d'Américains qui viennent jouer, donc c'est quand même super. D'avoir des scènes en plein centre-ville, le Shabada, puis tous les festivals de jazz dont on parle en ce moment, le Saveur Jazz, le Bouche à Oreille, il y a quand même des lieux pour se produire.
Est-ce qu'il y a des ponts entre les autres musiques, les autres acteurs de cette scène musicale, et le jazz, et en l'occurrence, ta musique et toi-même ?
À Angers, pas beaucoup. Et je crois que c'est aux musiciens de jazz de créer, parce que justement, pour faire avancer le jazz, il faut des liens, des fusions avec d'autres univers. Et je pense qu'il faut que ça se joue, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est assez restreint, la ville est petite. Donc pour l'instant, moi, j'en ai pas connaissance en tout cas. Mais en tout cas, dans le jazz, ça existe, heureusement, quoi. Il faut aller à Paris.
Non, il nous reste que très peu d'émissions. On va être en retard déjà, en fait. Non, c'est toi. Bah, si j'attends après, on va être vraiment très en retard. C'est pour ça. Tu vois, déjà, je voulais passer d'autres ces morceaux, vraiment.
Bah, l'anecdote que j'ai, tu vois, ça me fait penser à ça, c'est que moi, j'ai toujours joué de la guitare depuis que je suis tout petit. Donc, quand j'étais encore chez mes parents, à chaque fin de retard dans la cuisine. Donc si tu veux, il y a quand même ce lien-là. J'ai toujours joué dans ce lieu-là. Donc je continue à m'entraîner, et même des fois à composer, malgré que j'ai un petit studio
si
à côté.
Bien, ça commence où là, c'est un peu califrage des...
C'est un peu différent, quoi.
Donc,
c'est
j'annonce...
un lieu assez reposant où je me sens bien. Et puis c'est vrai que la cuisine, donc, là vraiment, la vraie cuisine, pour manger, ça m'intéresse aussi. Parce que il y a plein de parallèles d'improvisation avec le jazz, de quoi faire. C'est un peu, on ouvre son frigo, il y a quand même des... Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que je vais pouvoir composer avec ça ? Donc finalement, ouais, on peut trouver un parallèle. Et moi, j'adore cuisiner. Ouais.
Je pense que ça fait approximativement 5 minutes que j'ai mon micro ouvert alors qu'il devait être fermé pour vous permettre de profiter de ce moment avec Alex Grenier tout court, réalisé par Jean-Michel Delage. Je vous prie de m'excuser, c'est la fin de journée. Le problème, c'est que c'est le moment où je devrais être le plus réveillé, vu que c'est le direct de l'Oreille Curieuse. Vous êtes sur Radio G. Alors peut-être que vous avez entendu un peu la suite de l'émission. Maintenant, on va retrouver la chronique Portrait de femme, qui est une chronique bimensuelle qui est proposée par Anémone.
C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Super
Parce que j'avais en étant petit pas envie de parler, papa en rage m'a tendu le nez et se mit à flammer. Quand un jour inspiré j'ai pu faire la belle invention, ce très long mot recommandé pour la prononciation. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous êtes à la page plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
Bonsoir à tous. Nous avons débuté cette émission de l'Oreille Curieuse en photo avec Jean-Michel Delage et nous la finissons aussi en photo. Voilà. Ce soir, je vais vous parler de celle que certains ont surnommée la Mary Poppins photographe. Et donc, je vous parle de Viviane Mayer et pour vous la présenter, eh bien, je commencerai par la fin.
Nous sommes en 2007, un dénommé John Maloff, agent immobilier passionné d'histoire de 29 ans, achète aux enchères tout un fatras de photographies, de planches contact, de pellicules non développées, de négatifs et de papiers entassés dans des piles de carton. Malheureusement, rien de tout cela ne peut lui servir pour le projet qu'il a d'écrire sur Chicago. Ignare en photographie, il poste parfois sur Internet quelques photos qui font l'unanimité. On lui propose d'en acheter. Un professeur d'art attire même son attention sur le travail exceptionnel de l'auteur. Mais qui, justement, est cet auteur? Et qui est cette femme qui apparaît dans de nombreux clichés? Qui est Viviane Mayer? Quand on lui demandait ce qu'elle faisait dans la vie, Viviane Mayer répondait « Je suis une sorte d'espionne ». C'est peut-être cette capacité à se cacher qui explique que John Maloff ait mis autant de temps à percer sa personnalité. C'est uniquement en 2009, donc 2 ans après la découverte de toutes ces pellicules, que John Maloff finit par découvrir un nom à peine lisible sur une enveloppe, tapis au fond de l'un des innombrables cartons. Il y lit ce nom, Viviane Mayer. Effectuant alors des recherches sur Internet, il tombe avec stupéfaction sur un avis de décès paru quelques jours plus tôt, rédigé par les frères Gainsbourg, annonçant le décès de Viviane Mayer. Il contacte ses frères Gainsbourg et apprend que Viviane était leur nurse et qu'elle ne se séparait jamais de son appareil photo. John Maloff en est alors certain, il a découvert un trésor. Maloff va par la suite retrouver de nombreux enfants que Viviane a gardés. Il découvre qu'elle travaillait comme garde d'enfants dans les beaux quartiers de Chicago. Et ses enfants, devenus adultes, la comparent, pour certains, à Mary Poppins et se souviennent d'une originale, fagotée comme un homme, soucieuse de les éveiller au monde. Au programme, visite des abattoirs, du cimetière local, films d'art et d'essais. D'autres, en revanche, se remémorent une femme aux opinions tranchées, féministes, revendiquant crânement son célibat. Viviane, d'origine catholique, mais probablement athée, socialiste déclaré, alors que la chasse aux sorcières fait rage, misanthrope dans l'âme, avait toujours et pour tous ses enfants, dans la main, un appareil photo, un Rolleiflex, pendu à son cou. Elle passait ses jours de sortie à photographier Chicago, seule, ou ses jours à accompagner les enfants qu'elle gardait, à prendre ses photos avec eux. Ceux qui l'ont croisée ne lui connaissaient aucun ami, aucune famille. Car en effet, Viviane est une femme discrète, androgyne, presque austère, les cheveux courts retenus par une barrette, les lèvres bien dessinées, une silhouette solide. Elle a le regard grave, concentré, jamais un sourire. C'est ce que l'on voit sur certains de ses autoportraits. Pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte, Mayer a donc travaillé en tant que nurse, gouvernante ou même aide-soignante dans ses banlieues du North Shore de Chicago. Et elle semble avoir conservé avec elle tout ce qu'elle possédait au cours de son existence. Alors, outre ses photographies et ses effets personnels, on a découvert plus tard qu'elle a laissé de vieux journaux, des livres, des albums, des objets souvenirs, etc. Elle gardait les choses de manière obsessionnelle. Et John Maloff découvre aussi, chose étrange, que tout au long de son existence, les photos de Viviane Mayer restent inconnues et non publiées. Les grands nombres de négatifs n'ayant pas encore été développé. Elle n'a pas pris la peine de les développer. Donc, qui Viviane Mayer photographiait-elle? Et de quoi parlent ces photos? Eh bien, pour nous replonger un petit peu et ressentir un peu l'atmosphère de l'époque, voyageons dans le Chicago des années 50 avec un petit extrait musical intitulé « Sweet Home Chicago » de Robert Johnson. Chicago connaissait à cette époque l'essor du Chicago Blues et qui est arrivé avec l'exode rural lors de la Grande Dépression des ouvriers noirs et pauvres du sud des États-Unis vers les villes industrialisées du nord, Chicago en particulier. Et c'est cette tranche de la population que Viviane Mayer magnifie au travers de ses photos. Les laissés pour compte, les marginaux, les chanteurs, SDF, miséreux, noirs ou blancs, auxquels on sent qu'elle s'identifie. Son style fait le lien entre une certaine photographie humaniste française et la photographie américaine des années 55-60, qui préfère montrer des êtres avec leurs failles et leurs faiblesses plutôt que de les idéaliser. Et pour cela, elle s'y prend d'une manière particulière. Elle ne choisit pas Viviane. Son sujet tout l'attire, un détail la retient. Elle est la chroniqueuse des sans-logis, de ceux qui s'endorment sur un banc, mais elle est aussi la photographe de ces hommes d'affaires qui se croisent dans Central Park, le chapeau qui raconte une vie sur la tête, ou bien alors c'est une femme des beaux quartiers parfois qu'elle saisit d'un œil ironique avec ses fourrures et ses bijoux et qui la regarde d'un air mauvais, ou un homme d'affaires, cigare et costume croisés, qui la toise avec agacement. Elle possède ce sens du détail qui dit tout d'une histoire, d'un monde, d'une vie. Certains photographes de rue de l'époque cherchent à capter cet instant fugace, ce genre d'image, mais très peu à l'époque sont des femmes. On peut citer l'exemple de Lisette Model ou d'Hélène Lévit, photographes de rue qui ont précédé Mayer et dont le travail aurait pu être connu de celle-ci. Mais la quasi-totalité des modèles des photographies de ces deux personnes penche soit pour l'une vers le grotesque et pour l'autre sur les enfants de son quartier. Quant à Viviane Mayer, elle embrasse tous les sujets, tous les genres, nature morte, paysage, portrait, autoportrait, dans lesquels elle se dévoile à peine. On se rend cependant compte en parcourant ses photos que sa technique photographique est tout sauf celle d'une animatrice, pardon, d'une amatrice. Elle utilise principalement un Rolleiflex, comme je disais, un bi-objectif, et le propre de ces boîtiers, c'est qu'on les porte au niveau de la poitrine pour viser frontalement. Donc, elle est toujours, pour ses photos, elle est toujours au centre. Elle ne se déporte que rarement et elle se tient presque parallèle à son sujet, ce qui fait que le modèle prend presque toute l'image. Il est toujours au premier plan de la scène. A contrario de la street photographie, qui est le plus souvent dans l'action, Mayer, elle est presque toujours arrêtée, statique. Elle n'accompagne que très rarement l'événement. Et la part la plus connue et la plus frappante et originale de son travail sont peut-être avant tout ses autoportraits. Quand on les regarde un peu sur Internet, on se rend compte qu'ils ne disent presque rien finalement de sa personnalité. Étrangement, ils sont à la fois comme des jeux de miroir. On sent que la photographe est fascinée par son image qu'elle incruste par des jeux de miroir, des jeux de décomposition, des incrustations qui la rendent impassible, sévère. On la voit mutique. Elle sourit très peu ou esquisse un sourire un peu sibyllin. Le reflet, c'est pas simplement l'occasion de se montrer, mais c'est aussi montrer qu'elle observe l'agitation de la ville par rapport à un certain mutisme. Elle a pris aussi une multitude d'images avec le soleil dans le dos, elle joue avec les ombres. En fait, Viviane s'amuse. Elle s'amuse et s'amuse d'autant plus quand elle découvre la couleur. Elle y est particulièrement pionnière en ce domaine, ce qui est étonnant car elle commence à faire des photographies couleur dès 1952. Et pour vous donner un repérage dans l'histoire de la photographie, la première exposition personnelle au MoMA en couleur a eu lieu avec Ernst Haas en 1962. Et quand Viviane s'empare de la couleur, elle apporte une touche d'humour et un sens de l'absurde dans lequel on ne se rend pas trop compte encore dans son travail en noir et blanc. Il y a un livre intitulé The Color Work et une exposition du même nom qui ont salué ce travail en couleur qu'elle a réalisé les 30 dernières années de sa vie. Viviane Mayer a aussi des motifs de prédilection qu'on retrouve dans certaines de ses photos, des fleurs, des chapeaux, des chaussures et puis des mises en scène très particulières. Malgré cette technique rodée, ce sens du cadrage, cet œil avisé, elle semble maudite de l'art. Car elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur à l'époque. En effet, Viviane était amatrice d'expositions, de musées, de cinéma, une lectrice compulsive de la presse. Elle était accro des médias, elle consommait et photographiait des journaux, des magazines, des émissions, elle allait dans des émissions. Et donc, elle démarchait aussi les journaux pour vendre ses photos. Elle en a vendu quelques-unes, mais n'a pas pu vivre de ça. Cependant, elle était toujours en lien avec le mouvement photographique de l'époque, et il est inconcevable qu'elle n'ait pas non plus connaissance du mouvement de la street photographie, et qu'elle n'ait pas vu le travail de photographe dont elle s'est inspirée. Donc, Viviane Mayer n'était pas aussi amatrice qu'il semble l'être, finalement. On sait aussi qu'elle s'intéressait aux questions politiques et sociales et qu'elle protesta notamment contre la guerre. Le scandale du Watergate était au centre de ses intérêts et elle a pris des centaines d'images spécifiquement liées à la chute de Nixon. Pour finir, elle a tenté au moins une fois de montrer son travail sans succès, l'intégralité, et pour finalement laisser derrière elle ses 140 000 images tout de même non triées sous forme de négatifs et de boîtes de diapos. Alors aujourd'hui, on peut se demander, autour de cette œuvre, qui est Vivienne Mayer ? Comment recomposer un personnage et que faire de cette œuvre ? Car un mystère irréductible demeure. Elle est morte sans avoir sélectionné ce qu'elle jugeait précieux ou négligeable dans son œuvre photographique. C'est une étape indispensable pour un photographe. C'est le travail de tri, en fait. Et ça soulève bien des questionnements. A-t-on le droit, à titre posthume, de créer une œuvre ? Car dans une photographie, ce tirage fait partie de l'œuvre. Et pour construire cette œuvre posthume, il faut donc construire la femme. Et voilà, l'œuvre de Vivienne Mayer restera toujours en construction et gardera une part d'incomplétude et de mystère, ce qui est peut-être en fait, finalement, l'essentiel même de sa beauté. Voilà.
Merci beaucoup Anémone de nous avoir parlé de Vivienne Mayer. Moi j'ai découvert ce travail.
Ouais, c'est vraiment très intéressant et puis j'ai des petits liens que l'on pourra mettre sur le site internet, tout à fait, pour sa bibliographie et puis des expos à venir. Allez, juste j'en dis une qui va avoir lieu si vous baladez un peu en France, à Grenoble du 8 novembre au 15 novembre 2020. Donc ça va laisser 15 mars, pardon. 8 novembre au 15 mars.
On a un peu de temps.
On a un peu de temps. Voilà.
Bon, on mettra tout ça en lien sur la page de l'Oreille Curieuse sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. C'est la fin de l'émission. On est presque pas en retard.
Ouais.
On se retrouve dans 2 semaines à Anémone pour un prochain portrait de femme. Et là, je vous laisse avec Grand National, Drink to Moving On. C'est la programmation musicale de Radio G. Demain à 18h10, nous serons avec le Shabada. Et tout de suite à 19h, dans 9 minutes, vous allez retrouver La Case de Seb, l'émission sur la bande dessinée. Bonne soirée à tous et à toutes, à demain. Drink to move.